Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'ambiance est russe sur France Inter. Une Russie plus orientale qu'occidentale, puisque les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France nous attendent impatiemment à l'auditorium de la Maison de la Radio pour la seconde partie de notre clé de l'orchestre consacrée au rutilant ballet Petrouchka d'Igor Stravinsky, dont nous avons diffusé la semaine dernière la première partie. Et c'est dans sa chambre que nous avons laissé le pauvre Petrouchka, en quelque sorte la version russe de notre Polichinelle. Nous le savons, Petrouchka est amoureux de la ballerine, mais malheureusement, cet amour n'est pas partagé. Alors il se sent laid et ridicule. Théâtre de marionnettes au roulement de tambour.
Thank you. Voilà, c'était la première scénette de la pièce de marionnette, donc dans la chambre de Petrouchka. Et c'est vraiment une musique que j'adore et j'ai plein de choses à vous dire sur ce que nous venons d'entendre. Déjà, vous avez sûrement été saisi par ce double roulement de tambour au début. Un premier roulement de tambour, bon, ça c'est normal, hein, c'est le début de la pièce. Mais tout de suite interrompu par des stridences des bois. En fait, c'est Petrouchka qui ne veut pas rentrer sur scène. Et je pense à notamment un passage d'un petit film, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'intitule « Le journal de Gloumov », qui a été tourné en 1923 par Eisenstein, et où on a ces clowns mal maquillés, grimaçants, et je ne sais pas, je les imagine derrière, un peu timides, n'osant pas rentrer. Et puis, il y a un deuxième roulement de tambour, et là, on donne carrément un coup de pied au derrière à Petrouchka, qui est propulsé sur la scène. Et alors, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, dans ce tableau, il y a un instrument soliste que vous avez bien sûr remarqué, qui est le piano. Et Catherine est presque une sorte de soliste à ce moment-là. Et c'est tout à fait explicable, puisqu'au tout début, l'histoire de Petrouchka, c'est le fait que Stravinsky avait commencé de composer une sorte de petit concerto pour piano. Et lorsque Diaghilev, le patron des ballets russes, va le voir pour d'ailleurs parler d'un autre ballet, du Sacre du Printemps, il voit les esquisses de ce petit concerto pour piano, Stravinsky lui en joue des passages au piano, et Diaghilev est tellement conquis qu'il commence à imaginer un nouveau ballet, une histoire qui va finir par devenir l'histoire de Petrouchka. Mais au départ, c'était une pièce pour piano concertant et orchestre. Et enfin, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que dans ce que nous venons d'entendre, il y a un certain nombre de stridences, hein, de sons peut-être un peu désagréables pour certains d'entre vous, je ne sais pas, qu'on pourrait appeler des dissonances. Et c'est vrai qu'il y a souvent des dissonances dans la musique de Stravinsky. Je vous propose de vous expliquer un tout petit peu plus de quoi il s'agit au piano. Catherine, est-ce que tu peux me prêter ton piano ? Voilà, alors, je vous rappelle un peu ce que nous venons d'entendre. Par exemple, ce motif, qui est un des motifs caractéristiques du personnage de Petrouchka. Nous avons aussi un peu plus loin. C'est-à-dire, en fait, là, j'ai la main gauche sur les touches noires et la main droite sur les touches blanches. Dans la plupart des passages que vient de jouer Catherine, il y avait cette opposition touche blanche, touche noire. Ce qui, évidemment, provoque des dissonances. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une dissonance ? Eh bien, tout ça, c'est une question de choix de doublure. Pas la doublure de ma veste, hein, bien sûr, mais de doublure de la mélodie. Vous voyez, si je prends une mélodie très connue et que je la joue toute seule, je peux la doubler à l'octave. C'est traditionnel quand, par exemple, une femme et un homme chantent en même temps la même chanson. En général, l'homme est à l'octave de la femme, c'est-à-dire qu'il double la mélodie, mais une octave plus bas. On peut aussi doubler la mélodie à la tierce. Ça reste très harmonieux, très facile à entendre. Mais ce que fait Stravinsky, c'est qu'il utilise des doublures beaucoup plus dissonantes. Par exemple, les doublures de seconde. Voilà, c'est comme les épices, hein. Les palais des uns n'aiment pas les plats trop épicés, d'autres aiment bien un peu plus d'épices. Il y a aussi quelque chose que fait très souvent Stravinsky, c'est qu'il utilise un intervalle qu'on appelle le triton, et là aussi, c'est un peu particulier. Dans l'opposition touche blanche, touche noire, il se produit de nombreuses dissonances. Mais ces dissonances, à mon avis, elles sont très importantes dans le langage de Stravinsky et particulièrement dans Petrouchka. Parce que c'est une musique vivante, une musique colorée. Ce n'est pas l'ancien idéal classique de la musique harmonieuse, belle, vous savez, comme ces gens qui disent « Ah, j'écoute beaucoup de musique classique parce que ça me repose ». Non, c'est la vie, tout simplement. Et dans une fête foraine, dans une grande foire comme celle que nous décrit Stravinsky, et dans l'histoire même de Petrouchka, puisque nous sommes maintenant dans le petit théâtre de marionnettes, il y a de tout, des choses harmonieuses et de choses plus dissonantes, et c'est ça qui donne toute la vie de ce tableau particulier de Petrouchka. Alors maintenant, je voudrais que nous en passions à la deuxième petite scénette de notre pièce de marionnettes, qui maintenant va nous faire passer de la chambre de Petrouchka à la chambre du mort. Alors je vous ai dit que je vous dirais quelques mots sur cette appellation qui est un peu vieillie. Le mort, c'est l'étranger, c'est le barbare, l'oriental si vous préférez. Et notre barbare oriental est évidemment très infatué, vaniteux, prétentieux, mais il a des très beaux habits. Et ça, ça va beaucoup plaire à la coquette ballerine. Alors, déjà, nous retrouvons le mort avec une musique opulente, un peu nonchalante, et qui correspond à l'idée du mort nonchalamment allongé, jouant avec une noix de coco. Quand j'écoute les trombones, à la fin, les trois trombones, je me dis que le mort, il ne faut peut-être pas trop lui chercher des histoires. Hein. Il ne doit pas être commode comme caractère. Évidemment, comme c'est un ballet, il y a forcément une danse. Et à un moment donné, le mort se met à danser. Et il danse, bien entendu, une danse orientale, un peu langoureuse et chaloupée. Alors ce personnage qui est un peu le méchant de l'histoire, si on veut, donc c'est un personnage prétentieux, vaniteux, riche, et à la fois paresseux et colérique, c'est-à-dire qu'il est sujet aux sautes d'humeur, ce que montre bien le passage suivant de la partition. Je crois que c'est toujours avec les cuivres qu'on sent qu'il se met en colère. Et maintenant, nous entrons dans une partie plus narrative, parce qu'en quelque sorte, jusqu'à maintenant, nous avons eu le personnage de Petrouchka, un portrait psychologique, et là, nous venons de dresser le portrait psychologique du mort. Mais il faut que l'action, qui est très simple, prenne la place maintenant dans le ballet. C'est tout simple. La ballerine, qui tout à l'heure a quitté la chambre de Petrouchka, rentre dans la chambre du mort, elle est très joyeuse et elle joue de la trompette. C'est Alexandre, la trompette. La ballerine, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne réfléchit pas très longtemps. Elle est tout de suite conquise par les beaux habits du mort, par sa prestance, par sa superbe. Et donc, ils dansent ensemble une jolie valse en mi bémol. Ça se passe très bien entre eux, la valse, tellement qu'ils vont danser une deuxième valse. Et pour cette deuxième valse, Stravinsky fait appel à un thème très connu, un thème de valse viennoise. Alors, là, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'arrête, c'est cette esthétique qui est l'esthétique du collage. C'est-à-dire que dans tout Petrouchka, il y a non seulement un mélange de passages dissonants et de passages euphoniques, mais il y a un mélange de passages très complexes, très compliqués, de passages très simples, de choses qui font plutôt penser à de la musique classique et d'autres à des rengaines populaires. Et puis, l'utilisation, nous l'avons vu depuis le début de notre séance, de thèmes populaires russes, d'une chanson populaire française, elle avait une jambe en bois, et maintenant, l'utilisation de ce qui a été à un moment l'une des valses viennoises les plus célèbre, une valse de Joseph Lanner. Joseph Lanner, c'est un contemporain de Johann Strauss père. Une valse qui est écrite en 1842, qui s'intitule Die Schönbrunner. Et cette valse a été longtemps considérée comme la plus connue de toutes les valses viennoises, jusqu'à ce qu'elle soit supplantée en 60 par le célèbre Beau Danube bleu. Donc c'est cette valse que va utiliser maintenant Stravinsky, mais évidemment, comme toujours quand il utilise un thème, il l'utilise à sa sauce, à sa manière. Donc écoutez dans l'orchestration de Stravinsky avec la harpe, la valse en si majeur, la seconde valse que dansent le mort et la ballerine. Voilà, cette deuxième valse avec toujours ce côté un petit peu mécanique. Hein. On croit voir, vous savez, ces petits manèges, vous savez, qu'on vend parfois où on voit des petites poupées qui tournent. Donc, à ce moment-là, Petrouchka, au comble de la jalousie, fait irruption dans la chambre du mort. Il interrompt la valse de la ballerine et du mort. Naturellement, vous imaginez la réaction du mort. Il y a combat. D'entre vous qui connaissent le Sacre du Printemps, le passage que nous venons d'entendre préfigure ce Sacre du Printemps qui va être entendu à Paris quelques années plus tard, mais comme je vous l'ai dit, Stravinsky a un peu composé les deux musiques en même temps. Alors, inutile de vous dire que c'est le mort qui va avoir le dessus, ce n'est pas une histoire très morale, on aimerait que finalement la ballerine préfère le gentil Petrouchka. Nous avons de l'empathie pour Petrouchka. Nous aimons bien ce qui se passe dans son cœur et nous n'aimons pas le mort. Seulement, voilà, c'est un petit guignol à trois personnages et finalement, c'est le mort qui aura le dessus et qui va remporter le cœur de la ballerine. Nous écoutons maintenant d'un bout à l'autre cette deuxième scénette de notre petite pièce de marionnette et qui se situe dans la chambre du mort. Pour le dernier tableau de Petrouchka, nous sortons du théâtre de marionnettes pour nous retrouver de nouveau sur la grande place de l'Amirauté de Saint-Pétersbourg, au milieu de la foule, toujours la foire, la fête, la semaine grasse, mais maintenant, nous sommes le soir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le début et la fin de Petrouchka, c'est le tableau général, la foule, la fête, et ça encadrait notre petite pièce de marionnettes. Et ce dernier tableau est pour moi l'occasion de réfléchir à la manière dont Stravinsky avance dans sa composition. Parce qu'il y a chez Stravinsky une manière très particulière d'enchaîner les événements. Ce dernier tableau se présente comme un maillage de musique et d'énergie différentes. Alors commençons déjà par la première énergie qui nous est donnée à entendre. C'est de nouveau une sorte de joyeuse polyphonie de rythmes et de motifs qui n'est pas sans rappeler le début du premier tableau. D'ailleurs, certains des motifs étaient déjà présents dans le premier tableau. Donc, la foire, la polyphonie, tous les motifs qui se mélangent, une belle énergie brillante dans la tonalité de Ré. Thank you. J'adore ce début, cette énergie, comme une vibration de l'air avec cet accord persistant de Ré majeur. Et tout d'un coup, après à peu près une minute, sans transition, comme par juxtaposition, intervient une autre énergie, une autre tonalité, la tonalité de Fa. Et nous écoutons ce qui est désigné comme la danse des nounous. Enfin, les nounous, c'est les nourrices. Enfin, moi, je n'ai jamais vu des groupes de nourrices danser. Mais en tout cas, ça s'appelle la danse des nounous. Et nous entendons, au contraire, une musique très lyrique, avec un grand thème, encore une fois un thème populaire russe, un thème qui a déjà été utilisé par d'autres compositeurs russes, un thème très célèbre en Russie, et c'est le moment lyrique du dernier tableau. Grand thème lyrique au violon, hein, ça fait du bien. Le thème a circulé dans l'orchestre. On a commencé tout doux par le hautbois, puis après les cors et puis les violons, enfin, qui ont emporté en quelque sorte toute l'énergie. Et de nouveau, comme dans un collage, nous passons dans une troisième énergie qui est une énergie cette fois-ci burlesque, un peu grinçante, puisque c'est un paysan qui arrive avec son ours. Alors, paysan et ours, ça fait deux personnages, nous les retrouverons dans l'orchestre. L'ours est figuré par un tuba très sympathique, et le paysan, pour dresser son ours, il joue du chalumeau, qui est un peu l'ancêtre populaire de la clarinette. Sauf que, comme le tuba est un instrument un peu volumineux, Stravinsky a demandé qu'il y ait deux clarinettes qui jouent à l'unisson dans l'aigu pour que ce soit équilibré avec le tuba. Mais enfin, c'est quand même la scène du paysan avec son chalumeau qui dresse son ours, et l'ours est un peu pâteau, hein, il se balance sur ses pattes, et ça, ce sont les graves des cordes qui font pom, plom, pom, plom, et nous assistons éberlués à l'entrée dans la fête foraine, donc tout le monde se recule, à la fois intéressé et un peu inquiet, évidemment, on ne sait pas trop ce que va faire l'ours, donc le paysan et son ours, irruption dans la foire de Saint-Pétersbourg. Vous avez vu ce qui vient de se passer? C'est incroyable. D'habitude, il y a quand même un sentiment de fin. Là, il y a eu un tuilage. Je vous parle depuis le début de ce tableau, de cette manière extraordinaire qu'a Stravinsky de renouveler en quelque sorte les enchaînements. Il y avait les enchaînements sans transition, là il y a un tuilage exactement comme une technique, vous savez, de DJ, où on fait entendre avec les platines une musique qui petit à petit se substitue à l'autre. Pendant qu'on entend la fin du balancement des cordes et les dernières notes du tuba, petit à petit, les cordes sont entrées et l'ondulation de la foule a repris le dessus. Et d'ailleurs, dans le même registre du problème des transitions, je vous propose d'écouter non pas un nouveau morceau, mais le passage du morceau suivant, qui est une danse de tziganes, à la danse des cochers. La danse des tziganes est très énergique, très brillante, avec ce tempo pam pada badabadam pam 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 pada. Et petit à petit, Stravinsky va faire une sorte de fondu enchaîné d'énergie. C'est-à-dire que le tempo de la danse des tziganes, tam pada badabadam pam 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 pada, il va le ralentir, jusqu'à arriver à sa nouvelle énergie, à son nouveau tempo. Je vous propose d'écouter cet enchaînement qui va des tziganes au cocher. Aussi quelque chose de très visuel dans ces enchaînements. Vous voyez tout à l'heure la manière dont petit à petit disparaissait le tuba, l'ours, et dont l'ondulation, le mouvement des cordes recouvrait petit à petit la musique précédente. On pouvait imaginer que c'était l'éloignement. Finalement, le paysan et son ours ont fendu la foule, ils s'éloignent, et donc petit à petit ils disparaissent, on ne les entend plus, alors qu'on entend de nouveau les bruits de la foule. Là c'est un peu la même chose, on peut aussi penser que c'était un passage des tziganes et que quand ils s'éloignent, on les entend moins, ils ralentissent, ils diminuent, et tout d'un coup, il y a une nouvelle arrivée, une danse des cochers, donc on écoute la nouvelle musique. Et un dernier point que je voudrais souligner également, une technique très personnelle de Stravinsky, c'est sa manière de répéter, hein, c'est une musique quand même de la répétition, voire de la transe, mais de répéter avec une grande imagination orchestrale. Au lieu de faire ce que font souvent les romantiques, c'est-à-dire de développer, de moduler, il reste dans la même tonalité, il répète, mais en faisant circuler le thème dans l'orchestre, comme on l'a vu tout à l'heure dans la danse des nounous, et même parfois, il divise un grand thème en petites incises qu'il fait dire par des instruments différents. Vous savez, un petit peu comme si nous devions à trois ou quatre dire une grande phrase et chacun dirait trois mots les uns après les autres. C'est exactement ce qu'il fait dans cette danse des cochers. Il utilise de nouveau un thème populaire russe. Mais à chaque fois, il le divise en quatre incises qu'il confie à des instruments différents. Les trompettes pour la première incise. Après, les pizzicato des cordes, les trombones, et pour terminer, les cors. Écoutons cette fragmentation du thème dit par les différents instruments de l'orchestre. Ce qu'il y a de passionnant dans cette histoire, c'est que finalement, on s'aperçoit que le travail d'un compositeur est toujours partagé, équilibré entre ce qui se répète et ce qui varie. Ce qui est étonnant chez Stravinsky, c'est qu'il répète des moteurs rythmiques, des accords uniques, des mélodies, mais par contre, il y a un travail de variation orchestrale et de timbre qui est parfois tout à fait remarquable, comme ce que nous venons d'entendre maintenant. Alors ça, c'était donc la danse des cochers. Après, l'histoire va continuer. Nous allons d'abord retrouver certains thèmes qui vont revenir, hein, toujours ce que j'appelle la forme kaléidoscope ou la technique du kaléidoscope. Par exemple, le thème des nourrices va revenir. Et puis, à un moment, il va y avoir un groupe de masques. Hein, ce qu'on appelait les masques à Venise, c'est les gens qui arrivent déguisés. Et d'ailleurs, c'est inquiétant parce que un des déguisés est le diable. Donc on entend un moment « pam, 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 pam » qui représente le diable, c'est le thème du diable. Et puis, à ce moment-là, il y a deux fins différentes. Il y a la fin de concert, quand il n'y a pas de danseur, qu'il n'y a pas de ballet représenté, et bien petit à petit, l'énergie augmente, et nous terminons par un grand crescendo très brillant, c'est la fin de Petrouchka. Quand on donne la musique de Petrouchka avec le spectacle de danse, eh bien, il se passe quelque chose d'un peu étonnant. C'est qu'à ce moment-là, surgit le mort et Petrouchka, car le mort va tuer Petrouchka d'un coup de sabre. Alors, c'est un peu étonnant parce que, normalement, l'histoire des marionnettes, c'est dans le petit théâtre de marionnettes. Ce ne sont pas des personnages qui arrivent vraiment dans la foule, parce que là, le mort tue Petrouchka devant la foule assiste à ça et Petrouchka agonise dans la neige. Et du coup, on va appeler la police, on va appeler le charlatan. Et c'est le charlatan qui va dire « Mais ce n'est pas un meurtre, regardez, ce ne sont que des poupées. » Sauf que tout d'un coup, en haut d'un toit, on voit Petrouchka, une sorte de spectre de Petrouchka, grimaçant et ricanant, ce qui effraie le vieux charlatan qui laisse tomber le corps de Petrouchka et qui va vite se sauver. Maintenant, nous allons écouter évidemment la version de concert, hein, donc il n'y aura pas tous ces petits événements que je viens de vous dire, mais je voulais quand même vous raconter la fin de l'histoire. Nous allons écouter en entier le dernier tableau de Petrouchka, et je voulais vous dire à quel point je pense que cette œuvre est fondatrice d'une grande partie de la modernité du XXe siècle. On parle souvent de la révolution du sacre du printemps. Quand on évoque Stravinsky, c'est vrai, ce rite païen, cet orchestre énorme, cette puissance rythmique. Oui, c'est certain, le sacre du printemps est une des grandes révolutions du début du XXe siècle en musique. Mais Petrouchka, pour moi, c'est l'autre révolution. Parce que c'est le moment où on rompt avec l'esthétique romantique, qui est une esthétique du sublime dans la musique classique. Et là, bien au contraire, tout se mélange. Les chansons populaires, les techniques savantes, les danses, les imitations d'orgue de barbarie. La foire, l'esthétique de la foire prend place dans la musique classique. Et le cirque et les rengaines, tout a le droit de coexister tout d'un coup dans la musique. Et je crois que c'est ça, l'extraordinaire coup de force de Petrouchka, de dessiner une nouvelle esthétique, un trait clair, un trait coloré, une nouvelle manière d'utiliser l'orchestre, de mener le discours musical, une musique à la fois simple et foisonnante, triviale et raffinée, savante et populaire. Le dernier tableau du Petrouchka de Stravinsky.
Thank you.
C'était la seconde partie des Clés de l'Orchestre, consacrée à Petrouchka d'Igor Stravinsky, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Santou Mathias Raouvali. Responsable de la programmation éducative et culturelle, Cécile Kaufmann-Nègre, assistant musical Thibaut Perrine, musicien metteur en onde Rafik Evorkian, prise de son Jean-Louis Deloncle, assisté de Xavier Lévesque et Lucas Derode. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Dorian Seigre. À la semaine prochaine.